Radio Capi. Présentation du journal Jacques-Yves Molima.
Affaire Boukangalonzo, la Cour a pris en délibéré les exceptions sur son éventuelle incompétence et l'irrécevabilité de l'action du ministère public soulevée par les parties prévenues à l'audience d'hier jeudi. C'est donc le 21 juillet prochain qu'elle saura si Matata Ponyo et consorts seront jugés par la Cour de cassation. Victime il y a 2 jours d'attaque des ADEF, les habitants de Rwangoma, un quartier du centre-ville de Beni, ne passent plus nuit dans leur maison. Ils préfèrent aller habiter dans les quartiers plus sécurisés d'après eux. Cependant, l'armée assure que toutes les mesures sont prises pour sécuriser le milieu. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri. Il nous dresse l'état des lieux de la province plus d'une année après l'instauration de l'état de siège. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Mais tout d'abord cette information. Au Nord Kivu, dans les territoires de Masisi, au moins une malle contenant des items d'examen d'État pour l'exercice 2021-2022 ont été brûlés la nuit dernière dans un sous-commissariat au village Burungu par la population en colère. Elle était à la recherche d'un présumé auteur d'un assassinat qui aurait été détenu dans un sous-commissariat de Burungu. Le sous-commissariat de la police a aussi été incendié. Joint par Radio Capi, hier jeudi dans la soirée, l'inspecteur général intérimaire de l'EPST affirmait que de nouveaux items d'examen ont été imprimés et sont en route pour remplacer ceux contenus dans la malle brûlée par la population. Vous suivrez dans notre édition de 8h, heure de Kinshasa, 9h, heure de l'Est, l'inspecteur général intérimaire de l'EPST. Affaire Boukangalonzo, c'est le 21 juillet prochain que l'on saura si le sénateur Augustin Matata Ponyo, Patrice Kitebi, ancien directeur général du FPI, et le sud-africain Krobler Christo, gérant d'Africom, seront jugés ou non par la Cour de cassation. À l'audience publique d'hier jeudi, la Cour a pris en délibéré les exceptions sur son éventuelle incompétence et l'irrécevabilité de l'action du ministère public soulevée par les parties prévenues après la réplique et l'avis négatif émis par le ministère public contre ces exceptions. Le compte-rendu de Jeff Ngoy.
Les conseils de prévenus reviennent sur leurs exceptions devant la Cour constitutionnelle. Ils rappellent l'arrêt du 15 novembre qui a vidé, selon eux, cette affaire de son contenu, étant donné que cette haute juridiction, dont les arrêts sont opposables à tous, s'était déclarée incompétente et qu'aucune autre juridiction ne peut plus juger leurs clients. Il n'y a pas eu de réquisitoire préalable sollicitant la levée d'immunité du sénateur, déposent ses avocats. Pour les conseils de Patrice Kitebi, leur client est privé de son droit de double degré de juridiction. Quant à la partie Krobler-Christo, ses conseils arguent qu'il est justiciable de la Cour internationale d'arbitrage qui serait déjà saisie de cette affaire et dont le contrat est extra-étatique répondant du droit international. Dans sa réplique, le ministère public évoque les articles 19 et 164 de la Constitution pour justifier la compétence de la Cour de cassation et son action conforme à la loi. Il s'appuie sur le principe de l'unicité du ministère public avec celui près la Cour constitutionnelle. Matata n'a plus d'immunité et a décliné sa compétence. Cependant, l'arrêt du 15 novembre est resté muet sur le juge naturel du sénateur, soutient le ministère public.
Autre nouvelle, ouverture d'une antenne du bureau central de coordination BCECO à Cabinda, dans la province de la Lomami. Elle sera chargée de superviser et coordonner les travaux du programme de développement local de 145 territoires qui seront exécutés dans les 5 territoires que compte cette province. L'annonce a été faite par Joseph Nindou Kalala, chef d'antenne de BCECO Lomami, qui est à la tête d'une délégation qui est arrivée mardi dernier à Cabinda. Sur place, elle a été reçue par le gouverneur de la Lomami. Joseph Nindou Kalala, chef d'antenne BCECO Lomami, est au micro d'Esther Ndalafina.
Je suis à Cabinda pour une mission bien précise. Je viens d'abord ouvrir l'antenne BCECO à Cabinda. Alors pourquoi l'antenne BCECO à Cabinda? Vous savez que depuis longtemps, le chef de l'État a parlé de programme de développement local de 145 territoires. Dans le cadre de ce programme, 3 agences ont été sélectionnées par le gouvernement pour pouvoir exécuter ce programme. Et donc, entre autres, les BCECO. Les BCECO a 9 provinces, pour un total, je crois, de 49 territoires. Moi, on m'a confié la province de la Lomami pour 5 territoires. Et c'est la première fois, vous savez bien, qu'un chef de l'État s'occupe de développement à la base, depuis le départ des Belges. Et donc, moi, je suis ici pour pouvoir m'occuper du premier volet de ce projet qui concerne la construction des écoles ou réhabilitation de centres de santé ainsi que de bâtiments administratifs pour les administrateurs des territoires, les différents services qui sont dans les territoires.
Et puis, réunion hier jeudi ici à Kinshasa de consultation des acteurs intervenants dans les différents secteurs de développement financés par l'ABAD. En effet, la Banque africaine de développement finance à hauteur de 1,8 million de dollars américains différents projets en République démocratique du Congo. De ce fait, 52 projets ont été approuvés sur une période de 2013 à 2022. Il était donc question, en cette journée d'hier jeudi, d'un entretien entre le gouvernement et l'ABAD afin de repenser la stratégie pour de nouveaux horizons. Le détail avec Folquin Consomoussière Africa.
L'objectif principal dans la mise en œuvre de la stratégie de la BAD en RDC est celui d'aider le pays à sortir de son état de fragilité. Ces actes, en effet, sont ciblés. Il s'agit des infrastructures, de l'agriculture, la gouvernance, le secteur financier et le social. Et la vice-ministre des Finances, Onei Gencelé, de circonscrire l'événement.
La présente réunion de consultation a pour objectif de collecter vos avis en tant que différents acteurs concernés par ces programmes en vue de s'assurer que les interventions retenues sont alignées au rang des priorités tracées par le gouvernement.
Cependant, d'après le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga, il s'avère que tous les projets sont bien ficelés et approuvés par l'ABAD, mais il y a un souci.
La bureaucratie technique de l'ABAD est aussi contraignante et lourde. Si on peut alléger et faire de sorte que ce projet qui concerne la population, qui doit avoir un impact direct sur l'emploi, commence assez rapidement.
Ces cas bien acquiescés, Souleymane Koné, directeur adjoint et responsable pays de l'ABAD, tout en soulignant que les acteurs devraient faire preuve d'un peu plus de consistance dans leur projet.
Et puis début ce lundi 18 juillet de la deuxième phase de la formation à l'initiative personnelle des femmes micro-entrepreneurs. Ce projet d'appui au développement des petites et moyennes entreprises initié par le gouvernement prendra en charge 2612 femmes micro-entrepreneurs de la ville-province de Kinshasa pour l'autofinancement. Pour les femmes sélectionnées dans le Congo central, la formation débutera le lundi 25 juillet prochain. Après la formation, chacune des femmes bénéficiera du matériel d'appui du gouvernement selon le projet de démarrage des activités choisies. On écoute Raphaël Kakoudi, chargé du projet formation, au micro de Richard Junior Kamunga.
La formation en initiative personnelle, c'est une formation psychologique en entrepreneuriat. Elle est basée sur trois piliers majeurs. Le premier pilier, c'est l'auto-démarrage. C'est-à-dire, c'est une formation qui montre comment on peut prendre une initiative. On peut commencer une initiative, on peut commencer une entreprise. Le deuxième pilier, c'est comment surmonter les obstacles. Lorsque vous avez commencé une entreprise, vous allez rencontrer les obstacles et vous allez rencontrer les difficultés. Alors, comment contourner ces obstacles? Comment surmonter ces obstacles? Comment sauter ces obstacles? Ça sont des techniques qu'on doit enseigner aux femmes micro-entrepreneurs. Troisième pilier, c'est lorsque vous commencez une entreprise, vous commencez une activité, vous surmontez les obstacles, mais vous devez aussi vous projeter vers l'avenir. Donc, on va enseigner aux femmes comment s'orienter, comment fixer un objectif, s'orienter vers l'avenir pour pouvoir atteindre ses objectifs ou les résultats escomptés.
Au Nord Kivu, deux jours après l'attaque par les ADF de Rwangoma, plusieurs habitants ne passent plus la nuit dans ces quartiers situés au centre de la ville de Beni. Certains d'entre eux y passent la journée avant de se diriger vers d'autres quartiers jugés sécurisés à la tombée de la nuit. L'armée annonce avoir pris des mesures pour sécuriser le milieu. Martial Papimoukeba s'est rendu au quartier Rwangoma et voici son reportage.
Nous sommes au lieu d'aider pour compatir avec les familles éprouvées par cette barbarie de l'ADF.
L'air est au deuil à Rwangoma en mémoire des 7 civils tués mardi dernier au cours d'une attaque ADF. Des jours après, plusieurs habitants de ces quartiers ont résolu de passer la nuit dans d'autres milieux jugés sécurisés, comme le témoigne l'un d'eux.
Nous faisons la journée dans les quartiers, la nuit on se déplace dans des endroits où s'y pose et avoir la sécurité. La situation fait le temps de la peur. Nous avons été attaqués ici, à quelques mètres de l'état-major des FARDC. Nous leur demandons d'assumer leurs tâches comme ils le font.
Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1, rencontré à Rwangoma, rassure.
Que ce soit du côté du quartier Rwangoma, que ce soit du quartier Païda, nous avons des mesures sécuritaires que nous avons renforcées. Nous avons des patrouilleurs qui font des patrouilles de dissuasion pour, n'est-ce pas, prévenir le pire.
En août 2016, au moins 50 civils avaient été tués dans une autre attaque des ADF au quartier Rwangoma de Beni. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Toujours à Beni, l'armée a présenté ce jeudi un groupe de 2 rebelles de l'ADF et 5 de leurs collaborateurs, plus 56 miliciens Mai Mai. Ils ont été capturés lors de différentes opérations militaires dans les secteurs de Rwenzori et de la chefferie de Bachou. Des fusils, des armes blanches ainsi que des produits de première nécessité fournis par leurs collaborateurs ont également été exposés. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, a réaffirmé la volonté des forces armées à imposer la paix au micro de Marc Marofimbo.
Vous êtes sans ignorer que beaucoup ont parlé à mal contre l'armée en disant que l'armée qui tue, c'est la police, c'est la MONUSCO qui tue. Aujourd'hui, nous ne cessons jamais de vous montrer des preuves. Alors, je mets à défi ceux qui accusent toujours à tort l'armée de nous prouver au moins un seul militaire qui a massacré la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont mieux informées que quiconque, que ce soit les jeunes qui s'embrouillent dans les groupes de WhatsApp, que ce soit certains leaders de la société civile qui joue au populisme, que ce soit même certains députés qui donnent l'impression de parler au nom de la population. Croyez-moi, nous avons toutes ces informations possibles, nous avons les renseignements sur tout ce qui se passe dans le Rwenzori et nous ne fatiguerons pas. Nous allons travailler et nous allons imposer la paix dans cette région de notre population.
Signalons qu'un jeune kidnappé par ses ADF à Boulongo qui a réussi à s'échapper était aussi présenté à cette occasion. Autre nouvelle, les FARDC et la force de la MONUSCO sont mobilisés face à la résurgence du M23, mais leurs moyens étant limités face à plusieurs autres fronts, dont celui des ADF, il y aura des endroits où les deux forces ne sauront être présentes de manière satisfaisante. Déclaration du porte-parole de la MONUSCO à la conférence de presse des Nations Unies de mercredi 13 juillet dernier ici à Kinshasa. Il a également rappelé que le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier jeudi, présentée par Guy Maté, est revenue sur cette déclaration. À la question de savoir si par cette déclaration, la MONUSCO avoue son impuissance face au M23, Mathias Guillaume, porte-parole de la MONUSCO qui a participé à cette émission, explique qu'il ne s'agit pas d'un message d'impuissance, mais plutôt un message de détermination pour pousser les conseils de sécurité à exercer davantage de pression sur le M23 afin que cette rébellion se retire sans condition de Bunagana. Mathias Guillaume, dans ses propos sélectionnés par Guy Maté.
Le message adressé, c'est un message d'engagement, c'est un message de détermination, mais c'est un message aussi de réalisme sur les moyens dont on dispose. L'idée n'est pas du tout de dire on ne s'occupe que du M23 et le reste ne nous intéresse pas. C'est au contraire de pousser auprès du Conseil de sécurité et auprès de nos partenaires la réalité d'une situation où nous avons de multiples crises à gérer et donc nous avons besoin, encore une fois, que le Conseil de sécurité redouble ses efforts pour une désescalade rapide de la situation qui concerne le M23 et un désarmement sans condition de ce groupe. Identifier un défi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas relever ce défi. Et l'armée congolaise relève ce défi, elle est présente, elle se bat avec nous à côté, nous sommes présents sur le pont de Kabindi, nous sommes présents à Rumangabo, nous avons bombardé à la fin mai pour faire reculer le M23 à plusieurs reprises et nous sommes disposés sur différents sites du Rutshuru pour empêcher leurs avancées, pour repousser les attaques.
De son côté, le professeur Arsène Mwaka analyse cette déclaration du porte-parole de la MONUSCO comme étant une interpellation à l'endroit du gouvernement et de la communauté internationale sur le rôle que chacun devrait jouer dans cette situation d'occupation de Bunagana par le M23. On écoute le professeur Arsène Mouaka, professeur à l'Université de Kinshasa, dans ses propos sélectionnés par Guy Maté.
Moi, je prends ça dans un premier temps comme une interpellation à notre gouvernement pour dire qu'on doit faire de tout son mieux pour pouvoir se mettre au même niveau d'armement que le M23, plutôt que de continuer à communiquer sur un embargo qui n'existe pas, parce que notre gouvernement ne souffre pas d'un embargo. Il n'y a pas un embargo des Nations Unies contre notre gouvernement. On ne nous interdit pas d'acheter les mêmes armes et de nous armer comme une armée conventionnelle, au même titre que l'armée rwandaise qui arme le M23. Et donc, je prends ça dans ce sens pour dire, dans un premier temps, on prend ça comme une interpellation à l'endroit de notre gouvernement. Mais au même moment, à l'endroit de la communauté internationale, parce qu'on ne peut pas laisser mourir des populations comme ça, à partir d'un État à qui on a donné pratiquement le droit de tuer les autres, à telle enseigne qu'il est temps de pouvoir déclarer les crimes et déplorer les crimes que Kagame commet à travers la région de l'Afrique centrale et particulièrement au Congo.
Actualité internationale.
En Libye, Mustapha Sanalla, président de la compagnie nationale pétrolière libyenne, NOC, a refusé de quitter son siège après la décision du Premier ministre Abdelhamid Dbeiba de le démettre de ses fonctions mercredi 13 juillet. Mustapha Sanalla, en poste depuis 2014, n'a pas l'intention de se laisser faire et il a mené plusieurs attaques sur les réseaux sociaux contre le Premier ministre.
L'invité.
Radio Okapi reçoit comme invité ce matin le lieutenant-général Johnny Louboya-Kachama, gouverneur de la province de l'Ituri. Il dresse un état de lieu de cette province plus d'une année après l'instauration de l'état de siège dans cet entretien accordé à Martial Kizabiamungu. Suivez.
Général Johnny Louboya-Kachama, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà un an et deux mois déjà depuis que vous êtes à la tête de cette province. Quel est l'état des lieux actuel de l'Ituri?
Mais la province va plus ou moins bien. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, comme vous le savez. Nous avions commencé avec les opérations et aujourd'hui, avec cette pression que nous avons faite sur les groupes armés, je peux vous dire que nous sommes maintenant dans les actes d'engagement.
Sur le plan sécuritaire, vous l'avez dit, beaucoup pensent que les actes d'engagement que certains groupes armés, si je peux les citer notamment Codeco, FPIC et FRPI, ont signé étaient un coup d'épée dans l'eau. La preuve sur le terrain, ces miliciens continuent à commettre des exactions contre la population. Comment expliquez-vous cela? Est-ce uniquement un problème de prise en charge de ces rebelles?
Il y a aussi un problème de prise en charge. Vous savez, tous ces hommes-là qui étaient, tous ces groupes qui étaient habitués à extorquer, qui étaient sur les grandes nationales, qui étaient, je ne sais pas moi, ils n'y sont plus. Et donc, ça devient un peu difficile de survivre. Mais l'autre chose aussi, c'est le lien de subordination. Vous savez, ce sont des petits groupes comme ça, ici, qui n'ont pas un lien de subordination.
Général Louboya Kachama, à quand les débuts effectifs du processus de 2DRCS que tout le monde attend impatiemment en Ituri? Est-ce que répondez-vous à ceux ou celles qui affirment que ces 2DRCS risquent de se terminer comme ses ancêtres, c'est-à-dire sans résultat probant?
Non, je pense que maintenant il y a quand même un engagement. Hein? J'ai reçu dernièrement une grande délégation avec le colonel Bossalé qui était ici. Nous avons déjà fait toutes les reconnaissances, nous connaissons les sites, on sait où, avec d'ailleurs le contact que nous avons avec les groupes armés, on sait où est-ce qu'ils vont aller dès que les fonds seront disponibles. Vous savez, la différence maintenant, c'est la première fois, c'était plus la communauté internationale qui était en train de gérer. Mais aujourd'hui, c'est le niveau local. Ici, c'est le gouverneur qui est le premier responsable du PDD.
Parlons des droits de l'homme. Il y a quelques jours, un journaliste ou un ancien journaliste a été tué par un militaire des FRDC vers Komanda. Cet incident tragique n'est pas isolé. Certains militaires sont aussi accusés de violences contre des civils. La troupe échapperait-elle à votre autorité ou pas? Ces hommes en uniforme sont-ils inquiétés?
Je crois que vous avez l'exemple. D'ailleurs, on dit même que j'ai puni beaucoup. Non, là, vraiment, je suis sans quartier quand il s'agit de l'indiscipline. Et pour ce qui s'est passé, non, mais on a déjà arrêté le militaire. Moi, l'information que j'ai, c'est qu'un ancien journaliste, et ça, il y aura une audience foraine là, un ancien journaliste, dit-on, transformé en réparateur de moto à automobile, a escroqué un militaire. Et ce militaire-là lui a donné tout son salaire pour la réparation de la moto. En plus, il a encore donné au-delà. Il a donné d'abord 182 000 francs et puis il a donné encore 85 000 francs. Il s'est rendu justice lui-même, il est rentré, il a demandé au monsieur, au réparateur, journaliste, et voilà, il y a eu une altercation, et voilà, il a tiré sur... Le militaire a été appréhendé, il est devant la justice, et nous nous présentons des condoléances. C'est encore un citoyen congolais de plus.
Parlons de la communauté internationale. La MONUSCO, c'est votre partenaire. Depuis un an que vous êtes à la tête de l'Ituri, quel est l'état de votre collaboration avec la mission onusienne?
Nous avons un appui de la part de la MONUSCO. Nous travaillons ensemble et nous n'avons jamais eu de problème. Je crois que vous en êtes témoin. Chaque fois qu'il y a un petit problème, il y a une incompréhension, on se met toujours ensemble pour discuter, pour échanger et pour que notre état final recherché soit vraiment accompli. Donc vraiment, et là je félicite encore nos relations avec la MONUSCO et même avec tous les humanitaires. En tout cas, nous n'avons pas de problème.
Pour terminer, que comptez-vous faire pour que l'état de siège atteigne son objectif principal, celui de restaurer l'autorité de l'état d'Ituri? Malheureusement, les morts des civils continuent à être enregistrés.
Non, dans le territoire de Djougou, ça fait, je crois, 2 mois, il y a une accalmie. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, et vous êtes au courant, c'est un problème de positionnement. Qu'est-ce que je n'ai pas fait que je voudrais bien faire? Détruire les ADEF. Détruire les ADEF. C'est ça. En finir avec ces gens-là.
Général Johnny Luboya Nkashama, merci.
Notons que le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama sera l'invité de l'émission Grande Interview à suivre samedi 16 et dimanche 17 juillet à 10h05, heure de Kinshasa. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.